chers auditeurs, bonjour, c'est la catastrophe. Une catastrophe assez spéciale puisqu'on va faire avec notre ami Pierre Moulard, l'animateur de foot de sport, bien sûr tous les lundis à 18h, on va faire un rapide tour de ce d'effectif de ces équipes qualifiées en 8e. Il ne reste plus que 4 matchs cet après-midi.
On va mettre le générique peut-être ?
Non, on va commencer. On va commencer sans préliminaire.
Allez.
À sec. Alors, on est le 2 décembre. Avant de parler football, on va expliquer un peu ce qui s'est passé. On est à quelques jours de Noël. On est tous prêts. Il ne manque plus que l'argent. Hein. Donc, j'ai dû faire du tri aujourd'hui. Il y avait plein de choses qui sont passées le 2 décembre. En 1804, c'est le sacre de Napoléon Bonaparte à Notre-Dame de Paris. Il devient empereur. Donc, c'est quand même assez intéressant.
Pour les anniversaires.
Il est quand même. Il est quand même né ici, hein. En 1805, c'est la bataille d'Austerlitz. Les Russes prennent une déculottée par les Français. Pour une fois que les Français gagnent, c'est à noter. En 1908, Pouy devient le dernier empereur de Qin à 3 ans. Donc, excusez-moi pour l'accent asiatique. Je sais qu'en ce moment, c'est plus très drôle, mais
vas-y,
l'empereur de Qin.
L'empereur de Qin. Tu parles un peu comme ça.
Oh là là là.
Ouais, ça c'est très Michel Leb, là, ce que je viens de faire. Quelle honte. Oh là là, la honte m'envahit. Alors, ensuite, en 1949, l'ONU adopte la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution. Certains quartiers aux Pays-Bas, notamment Amsterdam, sont concernés. Vous savez, c'est là où Amsterdam, Amsterdam ou Barcelone, c'est quand j'entends, c'est ouais, on va avec des potes, on va à Amsterdam, mais c'est bizarre, il n'y a pas de match. Qu'est-ce que tu vas faire avec des potes à Amsterdam? Voilà, mesdames, maintenant vous savez ce qu'ils vont faire à 4 à Amsterdam. Alors, en 1956, Castro et Che Guevara débarquent à Cuba. En 1971, c'est l'indépendance des Émirats arabes unis. En 1976, Castro est élu président de Cuba. En 1988, Benazir Bhutto est la première. Est élue première ministre du Pakistan, première femme chef d'État dans un pays musulman. Ensuite, en 1983, c'est la sortie du clip Thriller. Thriller, ça a été une révolution, Michael Jackson.
L'album le plus vendu, d'ailleurs, on a fêté les 40 ans de l'album il y a 2 jours.
Exactement. Mm-hmm. Alors, en 1901, création du rasoir jetable, on ne citera pas de marque. En 1845, c'est la création de la SPA. Je ne savais pas que c'était aussi vieux, tu vois, je suis tombé des nues. En 1993, et là, Calvi est en berne, Pablo Escobar est abattu à Medellin. Donc aujourd'hui, les drapeaux vont être mis en berne à Calvi. Ah là, c'est de l'humour, je rigole. Un joyeux anniversaire à Britney Spears. On souhaite un joyeux anniversaire à Nelly Furtado, à Michael Youn, à Monica Seles. Tu sais, c'est la tenniswoman qui faisait des cris de bouillard pendant qu'elle jouait. À David Pujadas, à Philippe Etchebest.
Oui.
Et à Gianni Versace.
Et quand on l'a pas fait en direct à la radio, on souhaite qu'avec un peu de décalage, un anniversaire.
Bien sûr, mais j'allais venir.
Pierre, il paraît que c'est ton anniversaire cette
semaine. Alors, Pierre, dis-moi un peu, ça fait quoi?
Ça fait quoi d'avoir 42 ans? Ça fait rien.
Rien du tout.
Ça fait quoi de recevoir autant de notifications pour ton anniversaire? T'étais content?
Oui, merci Anto. J'adore ça en plus, tu le sais. RCC, t'y régalais, mon.
Alors, le 2 décembre, sont morts Hernán Cortés, grand conquistador espagnol en 1547. En 2020, il y a 2 ans, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Très mauvaise imitation.
Au revoir.
Et en 1814, le marquis de Sade est mort aussi. Donc, c'est la fête nationale au Laos et aux Émirats Arabes Unis. C'est la journée mondiale du modélisme ferroviaire. On peut dire aussi 2 petites infos. Un individu s'est introduit dans l'Élysée et il s'est retrouvé à quelques mètres du bureau présidentiel d'Emmanuel Macron. Donc, il risque 1 an de prison.
Rien que pour ça ?
15 000 euros. Rien que pour ça. Dis-moi, j'ai déjà du mal à rentrer dans l'aéroport sans mon ticket. Le type, c'est un champion, quoi.
Tu sais que c'est très grave, hein. Un truc comme ça, ça peut.
Alors.
Ça peut déraper.
Oh bah, ce qui peut déraper surtout, c'est le service de sécurité qui, à mon avis, se retrouve à Pôle emploi.
C'est clair.
Il pourra leur dire qu'il aurait qu'à traverser la rue pour trouver un boulot. Hein. Il risque.
Le vigile chez Carrefour.
même pas là. Hein. Là, tu fais même pas la CISIS, là, je pense. Hein. Alors, tu risques 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Pour la blague, ça vaut le coup hein, quand même. Hein.
Ouais.
Alors,
ça fait cher la blague.
Non, mais je vais te dire, si le type, il a moué de cab et qu'il met ça sur YouTube, il fait des millions de vues. Hein. Il est vite rentabilisé. Hein,
et après, finit en cabane.
Oui. Alors, très important, la baguette, le rail, et non pas, alors le rail, pas par rapport à Pablo Escobar, mais le rail, la musique, hein, et la harissa sont rentrés au patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO.
Le rail. Oui, ah, le rail, la musique.
Ah oui.
Chercher le rail avec la SNCF.
Oui, pas le train.
Chem Mami, Chebraleb, Koumsi, je n'existe. Eh ben ça, c'est
Aïcha.
Exactement.
Didi.
Et que serait un jour en France sans un jour de grève? Bien évidemment, la SNCF et les médecins généralistes.
Ils sont très forts. Les médecins, ouais, les médecins, on comprend. La SNCF, ils font très fort. Hein. Ils ont fait un magnifique spot. Vous l'avez vu à la télévision? Magnifique ce spot. C'est très très beau. Et puis en même temps, ils font la grève, quoi.
Voilà.
C'est
comme
donc, c'est contre-productif,
aura,
non?
Il y aura 60%. Mais alors, moi, ce que j'aime bien dans les grèves, oui, c'est qu'en fait, les gens, ils font jamais la grève pour l'intérêt général. Ils font toujours, oui, la grève pour leurs propres intérêts. Pourquoi, mmh, tu fais pas la grève? Parce que les tickets de train sont trop chers, en fait.
C'est vrai, c'est vrai.
Hein? Ils pourraient faire à la grève parce que les tickets de train sont trop chers pour les usagers et tout. Non, c'est pour leur salaire. Mmh. On rappelle aujourd'hui, c'est le décès du cannibale japonais Issei Sagawa. Alors, c'est celui qui avait en 1981 tué et mangé une étudiante néerlandaise à Paris. Et il y avait eu un incident diplomatique entre la France et le Japon puisqu'il avait été extradé et relibéré dans la foulée au Japon.
Magnifique.
Ah oui, oui, oui. Alors, Pierre, on va faire un rapide tour d'horizon de ce premier tour. Alors, un premier tour quand même où toutes les nations ont connu des difficultés. On va voir, là, il n'y a plus que le Portugal et le Brésil qui sont finalement, qui ont fait un premier tour assez correct, puisque eux n'ont pas perdu.
Attendons ce soir.
On va attendre ce soir, parce que c'est vraiment la Coupe du Monde des surprises. Des surprises, malgré tout, puisque l'Allemagne, la Belgique, qui était quand même, qui avait des rangs de favoris, le Danemark, à un moindre degré quand même, sont éliminés dès le premier tour. Et l'Espagne n'est pas passée loin hier soir. Alors, on va vite faire les matchs qui sont prévus. Donc, il y a un Pays-Bas-USA, Argentine-Australie. L'Argentine s'en tire finalement très très bien avec la qualif de l'Australie. France-Pologne, Angleterre-Sénégal, Japon-Croatie et Maroc-Espagne pour l'instant. On attend de voir ce que le Brésil et le Portugal, sur qui ils vont tomber. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Pour l'instant, il manque 4 matchs, finalement, de ce premier tour.
Bah, le premier tour, c'est pas une surprise. Si je vais dire que de nos jours, il n'y a plus de petites nations et toutes les équipes, elles sont prêtes le jour J. Hein. Il y a des formateurs, c'est terminé, c'est plus 86.
Puis ils sont
c'est
plus 90. En Europe aussi, hein.
Voilà, il y a pas mal de joueurs qui jouent en Europe. Donc ça, ce n'est pas une surprise. Après, sur les nations éliminées, lorsque tu m'avais invité sur la deuxième, je crois, émission, on l'avait prédit. La Belgique, bon, l'Allemagne, peut-être un degré moindre, mais l'Allemagne aussi, ben, ça s'essouffle. Hein, c'est...
Sans avant-centre, c'est compliqué d'aller à une Coupe du Monde.
C'est très compliqué. Ensuite, moi, je reviendrai vite fait sur l'équipe de France, avant de parler des matchs d'hier soir.
On va revenir sur ce fameux match des coiffeurs. Alors là, c'était les remplaçants des coiffeurs.
Voilà, hein, voilà, puisqu'on parle, on parle du premier tour. Je suis pas d'accord, comme tout le monde, hein, de faire jouer des joueurs qui sont pas à leur poste pour les faire jouer. Je trouve ça complètement débile parce que
compo complètement irrationnel.
Ils peuvent pas
s'exprimer.
Ben non. Et puis tu peux pas gagner de la confiance déjà par rapport à tes coéquipiers et aux sélectionneurs. Quand je prends le cas de Camavinga qui joue milieu de terrain au Real de Madrid et qui se retrouve latéral gauche. Alors, dans ces cas-là, il y a Pavard. Bon, Pavard, il n'est pas bien. Ben, il ne fallait pas le prendre. S'il n'est pas bien.
Apparemment, ça aurait explosé pendant le mondial. Hein.
Ouais, ben,
le mal-être aurait explosé pendant le mondial.
Il le remplace par un autre. Tu te permets de laisser des latéraux, comme on avait discuté, Mendy du Real, Jonathan Klose de l'Olympique de Marseille, qui a été jusque-là appelé par Didier Deschamps, et au final, tu ne le prends pas. Et tu ne le prends pas, et en plus de ça, tu fais jouer des joueurs pas à leur poste. Bon,
huit remplacements, quasiment deux joueurs à vocation offensive, puisqu'il n'y avait que Coman, finalement, et Colomboigny. À ne pas confondre avec Colombani, puisque mon fils pensait que c'était
vous étiez cousin germain.
Ouais, que c'était quelqu'un de la famille qui évoluait en
c'est
équipe
pas
de
le même.
France. Oui, parce qu'il entendait vaguement, parce que bon, ça l'intéresse pas trop, tu vois.
Ouais.
Il entendait vaguement, à partir du moment où il n'y a pas Mbappé dans l'équipe, il s'en fout, tu vois. Et à un moment, je l'ai vu arriver dans le salon. On a quelqu'un dans l'équipe de France, dans la famille. Je dis non, c'est un cousin éloigné. 5 cousins éloignés.
2 syllabes.
Voilà. Alors, deux joueurs à vocation offensive, donc tu crées les conditions finalement pour perdre. Tu brises un peu l'élan de confiance.
Ah oui, ouais. Bah, rien que dans ta compo, bah, même si tu as Colomoigny, mais la compo, elle est. Enfin, voilà. Pourtant, je prends toujours la défense des entraîneurs et des sélectionneurs, mais là.
Je te dis que tu as appelé Didier Deschamps, non t'as pas
non, je ne l'appelle pas.
Et sur le but. Le but refusé. Parce que bon, finalement, ils ont failli s'en tirer à bon compte, puisque dès que les 5 titulaires sont rentrés, donc Rabiot, Dembélé, Mbappé, Griezmann et je ne sais plus quel autre, c'était un défenseur, l'autre. C'était Saliba qui est rentré, qui a remplacé Varane. Très gros match de Konaté, c'est le seul qui a tiré son épingle du jeu. En 20 minutes, finalement, la France inverse la tendance, puisque les Tunisiens étaient survoltés, hein, facilités par la compo de Didier Deschamps. Et en 20 minutes, donc, ils prennent la foudre, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 frappes en 70 minutes, et il y en a eu 10 en 20 minutes. Il y a but, est-ce que ce but pour toi est valable?
Mais,
et au niveau de la règle, en tout cas, il devrait.
Voilà. Après, moi, j'inventerai, hein, tu prends l'article, la règle du football, c'est qu'une fois que tu as une remise en jeu, tu ne peux plus revenir sur la VAR.
Et la fin du match.
Là, après, dans le jeu, je dirais, pour moi, il est remis en jeu par le fait que le défenseur touche le ballon. Enfin, il y a quand même pas mal de. Bon, c'est le Qatar depuis le début. Hein.
Mais hier, Japon, des circonstances comme ça. Hein, Japon, le ballon est dehors.
Japon, Espagne, pourtant, moi, si j'ai pas des lentilles et des lunettes, je vois rien. À vitesse réelle, déjà, on voit que le ballon, il est sorti. Donc, allez, on peut excuser l'arbitre de centre qui peut être loin. On peut excuser le juge de touche qui est peut-être gêné par les poteaux ou je ne sais quoi. Ok, mais après, il y a la VAR, les gars. Alors, où je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font? Il y a la chicha dans les VAR. Et c'est...
On est flou, d'afflelou.
Ouais, non, mais attendez, les gars, je veux dire, c'est quand même grave. Parce qu'il y a quand même, à côté de ça, tu as l'Allemagne. Bon, après, on ne sait pas, peut-être que le Japon aurait continué à pousser, on ne sait pas. Oui. Mais toujours est-il qu'un fait de jeu comme ça, énorme, tu as l'Allemagne qui est éliminée. Pour moi, je trouve ça grave.
Alors,
s'il n'y avait pas eu la VAR, l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci, mais on nous a baratiné avec ça.
Mais je rappelle qu'en 2006, lors de la finale de la Coupe du Monde France-Italie,
ils n'avaient pas le droit, normalement.
Zinedine Zidane ne doit jamais être expulsé.
Exactement.
Parce qu'au fait, il n'y a pas de VAR à l'époque, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de caméra. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Aucun des arbitres n'a vu, ni le quatrième, ni les arbitres de ligne, ni l'arbitre central.
Mais qui l'a vu alors ? Mais
ils ont l'écran géant, c'est le quatrième arbitre qui voit sur l'écran géant les vidéos, images. Les images, qui appelle le troisième arbitre.
C'est en fait, donc les prémices de la VAR.
Oui, mais il aurait jamais dû. Il
être expulsé.
Même en ayant vu les vidéos,
tu peux pas.
Il aurait jamais dû, puisqu'au fait, l'information, il la prend
par le match,
un
alors.
Canal qu'il n'a pas le droit.
Normalement, on aurait dû rejouer le match.
Oui, surtout que tu le rejoues 100 fois, tu le gagnes 99 fois. Hein.
Mais dis-moi, cette Coupe du Monde, c'est pas une catastrophe, non?
Écoute, je crois que j'ai été visionnaire sur ce coup-là. Alors, on va venir quand même à ce match dimanche, France-Pologne, avec une Pologne finalement quand même qui joue avec ses armes. C'est pas très folichon au niveau du jeu. Hein, ça repose beaucoup sur Zielinski, le Napolitain et Lewandowski. Le joueur du Barça.
Chesney en forme.
Oui, alors qui sort un pénalty de Messi, ouais.
Et qui a fait double parade contre l'Arabie Saoudite. Hein.
Qui retarde l'échéance pour la Pologne. Qu'est-ce qu'il y a à craindre pour l'équipe de France? Puisque malgré tout, le seul lueur d'espoir, c'est que quand il y a le 11 titulaire, ça déroule.
Voilà. La France, tant qu'il y aura ce 11, donc on va prier. Hein. J'espère que le marabout s'est arrêté.
Oui, pourquoi pas.
Ouais, voilà, s'est arrêté. Je pense que si la France elle est au complet comme elle a été jusqu'à maintenant, je pense que... Mais
Attention.
C'est une nouvelle compétition qui commence. Ce n'est plus pareil.
Alors, c'est ce qu'avait dit Didier Deschamps. Et Chesney a dit, quelle est la clé, quand on lui a posé la question.
D'arriver au tir au but.
Alors, eux, ils s'entraînent. Hein. Ils se sont entraînés hier au tir au but. Et quand ils lui ont posé la question, quelle est la clé pour battre les champions du monde, il a dit, la clé repose sur moi.
Voilà.
Donc, le type serein hein, dans la tête. Hein. On sent qu'il ne tremble pas. Ouais. Bon. Avec un éventuel quart de finale contre l'Angleterre ou le Sénégal. Je vais te dire ce qu'a dit Eto'o. Le Sénégal est champion d'Afrique. L'entraîneur a été en quart de finale de la Coupe du Monde en 2002. le capitaine joue à Chelsea. C'est le meilleur défenseur central des deux équipes. Et en Angleterre, il y a un entraîneur qui a entraîné Brighton, qui a jamais été un grand joueur. Et ils ont jamais été loin dans une compétition depuis 1966. Donc, mon favori, c'est le Sénégal. Donc, bon c'est du Samuel Eto'o hein, aussi. Hein. Un éventuel quart contre, bon, malgré tout, l'Angleterre, hein, ça pourrait être bataille fratricide, le retour de la guerre des 100 ans.
Alors, par rapport à l'équipe de France, l'Angleterre, contre les États-Unis, sont passés près de la catastrophe, je dirais. Attention, c'est pas, tu vois, l'équipe de France, ils ont fait tourner, ils ont fait n'importe quoi. Donc sur la compo, même celui qui s'intéresse pas au football ou un minimum, il voit que
quand tu connais pas 8 des joueurs qui sont sur le terrain,
tu dis il y a un problème. Par contre, quand ils ont été là, l'équipe de France contre le Danemark, hein, on a pu en discuter. Ils ont quand même été. Tu sens la sérénité. Tu sens quand même, même s'ils prennent ils prennent un but, tu sens qu'à tout moment ils peuvent égaliser. Alors que l'Angleterre. Et pourtant, ils étaient
très bien commencé avec une Iran qui se refait la cerise quand même sur les deux derniers matchs, hein, qui ont été très 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 courageux et brillants.
Mais les États-Unis, c'est pas mal aussi, hein.
Alors finalement, celui qui s'en tire le mieux, est-ce que ce serait pas l'Argentine qui se récupère l'Australie, improbable huitième de finaliste, avec un tableau assez ouvert. C'est soit les Pays-Bas, soit les USA en quart de finale.
Ouais.
Donc à la portée pour une équipe qui était en difficulté au début de la compétition.
En difficulté parce que on a discuté. Il, quand tu mets des joueurs vieillissants contre des mecs en face qui courent, hein, quand on a vu contre l'Arabie Saoudite. Après, il a fait ses changements et par contre contre le Mexique et après le dernier match contre qui c'était le dernier match déjà, François, aide-moi.
Pologne.
Ouais. Les Polonais, ils n'ont pas existé.
Non.
Pourtant. Les matchs avant, les Polonais, enfin, je veux dire, ça jouait pas mal. Mais là, ils n'ont pas existé parce que il y a des jeunes autour de Paul. Le premier match, on l'a pas vu parce que il pouvait pas être de partout. Et quand il y a des jeunes autour de lui, eh ben, ça court et il y a du jeu, il y a de la liberté pour Messi qui peut s'exprimer. Bon, il a loupé ce penalty, mais
il y a une duel fratricide. Maroc-Espagne. Il y a des antécédents, hein, puisque c'est deux pays qui sont frontaliers. Ils vont connaître le même problème qu'a connu la Belgique face au Maroc, c'est-à-dire une équipe surmotivée, hein, puisque une grosse communauté marocaine en Belgique. Pareil pour l'Espagne. Des joueurs, que ce soit le gardien, que ce soit l'avant-centre, quelques joueurs qui évoluent dans la Liga. Est-ce que c'est pas le match piège finalement de ces huitièmes pour l'instant?
Alors, ce n'est que mon avis. Hein. Ayant regardé le match de l'Espagne, de Japon-Espagne hier soir, avec donc déjà voilà, je voulais juste parler de ce match parce que certaines personnes, et moi je suis pas pour. Après c'est mon avis. Hein. Certains entraîneurs.
Il a des stats. Il a des stats.
Eh oui,
oh, le cochon,
oui,
il a des stats.
Il a des oui, grandes, c'est impressionnant.
Parce que je voulais être précis sur ce que je vais dire. Donc, il y a dans les centres, dans les clubs, tout ce qu'on veut, hein, que ça soit de ma catégorie à, je vais dire, Régional 2 en Ligue 1. Et si on écoute tout le monde, on te dit il faut la possession, il faut la possession, il faut la possession, il faut la possession. Donc moi personnellement, je dis non. Et d'ailleurs, je laisse mes attaquants, ils les laissent. Donc ils peuvent faire 3447 passes entre le 3, le 4 et le 5 et le 2. On appelle ça une possession stérile.
Comme disait Maradona, faire des passes dans la surface, c'est comme danser avec sa sœur. Voilà. Ça sert à rien.
Ou alors, il y en a encore une meilleure, où Jorge Sampaoli a dit un jour, j'ai discuté dans un bar de Buenos Aires avec une fille jusqu'à 5h du matin, il est arrivé Maradona, il est parti avec, mais j'ai eu la possession toute la nuit. Ok, mais tu n'as pas gagné. Donc,
pas mal celle-là.
Voilà, tu vois, celle-là, elle est pas mal. Donc, hier, on avait...
Pour ça aussi, était bien, Tiens.
On avait 82,3% pour l'Espagne.
Si.
D'accord, de possession.
Si, si.
1058 passes.
Ça se voit. C'est... À part à FIFA, ça se voit pas.
Contre 228 pour les Japonais. D'accord.
969
passes réussies pour l'Espagne et 153 pour le Japon. Et au final, eh ben le Japon il gagne de 1. Alors, fait de jeu ou pas fait de jeu, on s'en fout. Toujours est-il qu'ils ont bien défendu. Ils ont défendu bas. Ils étaient bien regroupés. Donc, les passes, elles se font, c'est ce que je te disais tout à l'heure, entre le 4, le 5, le 6 qui remet, qui machin, ici et là. En fait, quand on arrive dans les 18 ou les 20 derniers mètres, eh ben on n'a plus de solution parce que ils défendent presque à 5 défenseurs plus 3 milieux. Donc, c'est compliqué. Donc, la possession...
ne veut rien dire.
Exactement. Voilà. Donc, pour en revenir à ce que tu parlais d'Espagne-Maroc, d'accord ?
Attention.
Je pense...
parce qu'il y a du talent au Maroc. Hein.
Je pense. C'est
il
que
pense, il pense.
Mon avis. Que l'Espagne a voulu...
donc, il est. Il pense, donc il est.
Donc, l'Espagne a voulu terminer second... pour rencontrer l'équipe du Maroc qui est joueuse.
Oui, donc potentiellement qui
peut... avec, tout est calculé alors.
Avec une stat comme ça, je pense que ils vont marquer des buts. S'ils ont les mêmes stats, ils vont marquer des buts. Par contre, s'ils avaient joué la Pologne, plus dur, ferme le jeu, je pense que ça aurait été plus compliqué. Je dis pas que ça serait pas passé, mais et je dis pas qu'ils vont passer contre le Maroc, mais ça va être quand même un match ouvert, je pense.
Alors aujourd'hui,
donc il y a la stratégie derrière tout ça.
Je
bien
pense.
Sûr, souvent il y a la stratégie des calculs qui
je
sont pas, comme
je
ça.
Je prends des trucs.
De toute façon, pour être champion du monde, après ils s'en foutent des tableaux. L'essentiel c'est de passer. De toute façon, pour être champion du monde,
il paraît parce qu'après t'es éliminé, c'est ça.
Champion du monde, pour être champion du monde, il faut battre tout le monde. Donc tu le reçois, que tu joues en quart, demi ou finale.
Alors attention, pareil. Attention, parce que
attention, le message va parler.
Il y a que deux équipes qui ont perdu en poule et qui ont remporté la Coupe du Monde sur 25 éditions. Hein. C'est l'Allemagne de 72 et l'Espagne de 2010, qui avait perdu son match d'ouverture face au Chili de Bielsa. Hein. Donc, perdre en poule, la proba est plus forte que tu remportes pas la Coupe du Monde que tu la gagnes. Hein. C'est pour ça que les Français devraient faire attention.
Vous avez pas une histoire comme ça, comme tout à l'heure avec Maradona dans l'esprit. Mais...
oh ben oui, parce que là j'en ai plein. Ah. On va conclure là-dessus. Match très intéressant à suivre. Ça va être Suisse-Serbie. Pourquoi ? Parce qu'il est très politisé. Parce qu'il y a énormément de joueurs suisses qui sont naturalisés, qui sont d'origine
serbe.
Non, qui sont d'origine albanaise et kosovarde. Ah. Et on connaît les antécédents qu'il y a entre la Serbie et l'Albanie et le Kosovo.
Toi, en plus, t'as vécu là-bas.
Et, oui, exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un antécédent avec la Serbie, c'est que des joueurs suisses avaient mimé l'emblème albanais, c'est-à-dire la tête aux deux aigles, l'aigle aux deux têtes. Et ce match-là va être, à mon avis,
mais
très violent.
C'était pas lors d'un éliminatoire d'Euro ?
C'était Granit Xhaka qui avait...
Ça a frappé, tu penses, hein ?
Suisse-Serbie, il y a un carton rouge. Alors ça, c'est la cote.
C'est à quelle heure et c'est quand ?
Vous pouvez aller, je crois que c'est à 16h, vous pouvez aller sur Winamax et lancer, il y a un rouge à ce match-là. C'est clair et net.
Ouais,
je vous l'assure.
Ouais, ça va être chaud.
Alors, petite mention, c'est les rumeurs.
C'est quand ? C'est à quelle heure ?
16h.
Mais quand ?
Aujourd'hui. Ah. Aujourd'hui, on y est.
Je vous annonce les ambiances, rumeurs. Alors après, on termine là-dessus. France, la femme de Areola a dit sur Twitter que la femme de Laurie, c'était pas gentil et n'aimait qu'elle-même. Donc très 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 bonne ambiance. Pavard s'est fait tirer les oreilles par Didier Deschamps. Donc en coulisses, c'est pas si rose que ça en équipe de France. La Belgique, petite bagarre avant la petite bagarre à l'entraînement d'avant match contre c'était qui hier qui ont rencontré les Belges. Ils sont fait éliminer par qui ?
Les Croates.
Les Croates. Donc il y a eu une bagarre entre Eden Hazard et De Bruyne. C'est Lukaku qui les a séparés. Au Cameroun, le Cameroun c'est les champions du monde des histoires, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à virer un joueur en cours de compétition, c'est-à-dire le gardien qui lors d'un entraînement a dit non mais en fait au coach, les deux défenseurs sont trop, j'ai pas envie de jouer avec eux, si tu peux dire à un tel de changer la chasuble, c'est mieux, magnifique. Et hier, l'avant-centre serbe Vlahovic, qui en plein direct a été obligé de dire je tenais à dire quelque chose, je n'ai pas couché avec la femme de mon collègue Radonjić. Incroyable. En pleine conférence de presse, le type est obligé de se justifier.
C'est une série B en fait.
Ah mais c'est un truc de fou. Et c'est ça aussi qui est bien pendant la Coupe du Monde, tu vois. C'est ces petites histoires qu'il y a derrière. Imagine, tu vas, c'est la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, c'est le moment ultime. conférence de presse, tu te sens obligé de dire les rumeurs qui se disent en Serbie ne sont pas vraies, je n'ai pas couché avec la femme de mon collègue. C'est incroyable. C'est incroyable.
Et ils font ça pour faire le buzz.
Ce qu'on appelle, ce que je te dis en même temps, c'est
ce qu'on appelle la jurisprudence John Terry.
La génération
TikTok,
buzz,
TikTok, ouais, Insta, c'est clair. Facebook.
C'est la jurisprudence John Terry, on couche pas avec les femmes de ses coéquipiers.
Ouais.
Donc voilà. Pierre, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Alors, est-ce que du coup, tu révises un petit peu tes pronostics ? Je rappelle que toi, tu étais sur
Argentine-Angleterre.
Argentine-Angleterre. Est-ce que tu penses que ça peut tenir ?
Tout est possible. Mais encore une fois, Angleterre-Sénégal, il me fait peur. Bon, et après, il y a la France qui va quand même, je pense qu'elle va aller loin.
Alors, je rappelle, cet après-midi, DJ Luigi, bien sûr, avec Overkitch.
18h.
Là, c'est de l'artisanat, tout est fait main, on le sait.
Du vinyle, que du vinyle, et que du vinyle.
Que du vinyle.
18h.
Et n'oubliez pas, demain, au Grand Large, il y aura le Noël du Grand Large, avec la présence du Père Noël. Donc, si vous voulez, allez faire un tour là-bas, il y aura du chocolat chaud. Gratuit. On va faire une petite pause musicale parce que je vous rappelle qu'en début de semaine, nous avions reçu Julien Piazza. Et il est revenu parce qu'on a préparé une émission comme ça sur le pouce. Je lui ai dit, allez, on n'a pas d'émission de recette, pas d'émission culinaire. Tu vas venir nous présenter une recette. C'est la forêt noire. Il y en a une là. J'ai déjà goûté. Voilà. On est sur. Là, c'est le diable. Hein. Il m'a emmené le diable là. Hein. Là, sur la balance, je vais prendre 2 kilos. Donc, on va voir la recette de la forêt noire avec Julien. Après, cette petite interlude musicale. Et c'est quoi, Nagui ?
Alors, c'est le nouveau Ina, et puis on aura Angèle. Et puis après, l'émission.
Ah, d'accord. Ok. Allez, ça va.
Comme ça laisse le temps de se préparer.